RMC.
Bienvenue dans Radio Brunet, ravi de vous retrouver. Tout de suite, on va parler du sort des enfants de djihadistes français qui se trouvent actuellement en Syrie. C'est une situation qui est extrêmement complexe, je le sais. Il y a un sondage qui est paru hier, sondage Odoxa Dentsu Consulting, qui dit que 67% des Français ne veulent pas que les adultes rentrent, moi non plus. Et 67% des Français ne veulent pas que les enfants de ces djihadistes rentrent. Moi, je suis pas d'accord. On parle d'enfants qui ont moins de 7 ans, 2, 3, 4, 5 ans. Est-ce qu'on n'a pas les moyens en France de ramener ces quelques dizaines d'enfants? Est-ce que notre honneur, ce serait pas justement d'être plus fort que la colère, plus fort que la haine, plus fort que les terroristes, et de s'occuper de ces petits-enfants, de les ramener chez nous? C'est ce que je pense. Vous êtes d'accord, pas d'accord? Vous nous appelez au 3216, vous votez par SMS au 610-71 comme tous les jours. Ça sera donc à partir de midi.
RMC, midi 14h, c'est Radio Brunet. Radio Brunet. Rémi Barré.
En Syrie, c'était moche. Il y avait plein de saleté par terre. Les portes, ils étaient abîmées et tout cassé.
Il y avait des bombardements.
Ça veut dire quoi, ça?
Ça veut dire des bombes. J'avais peur.
Les voix que vous venez d'entendre, ce sont les voix de Mariam et de Nousseba, 4 et 6 ans. À l'époque de ce reportage, nous étions en 2016. Deux petites filles qui avaient été emmenées par leur maman en Syrie en 2014. Elles sont revenues en 2016. Leur maman a été incarcérée à Fleury-Mérogis et leur papa a pu récupérer ces deux fillettes de 4 et 6 ans. À l'époque du reportage en 2016, j'imagine que c'est encore le cas aujourd'hui, je l'espère, elles allaient très bien. Elles étaient sorties de l'enfer. Et aujourd'hui, eh bien, il y a 70 enfants, comme Mariam et Nousseba, qui se trouvent en Syrie, dans un camp de réfugiés, en tout cas dans un camp de prisonniers quasiment, hein, kurde, dans des conditions très difficiles. Il fait froid, il pleut, il y a de la boue. Certains de ces enfants sont malades. Et en France, ben, on attend, apparemment. On ne fait pas grand chose. En tout cas, le gouvernement français ne fait pas grand chose. Et il y a ce débat, lancé par trois avocats, des familles de ces enfants, qui portent plainte contre l'État français, auprès de l'ONU, pour inaction, Capucine, face à la situation de ces enfants de djihadistes français, détenus en Syrie.
Oui, Rémi, ces familles exhortent l'État à prendre ses responsabilités et à protéger ces enfants d'un risque de famine et de mort imminente. D'après le ministère de la Justice, il serait actuellement 150 enfants de djihadistes français, ce sont en grande majorité des mineurs. 70% d'entre eux ont moins de 5 ans, 75% moins de 7 ans, mais on en a identifié formellement seulement 70. Souvent, ils sont détenus avec leur mère, tu l'as dit, dans des camps de réfugiés au Kurdistan syrien. Si leurs familles veulent les voir revenir en France, ce n'est pas le cas des Français, on le disait tout à l'heure. Le sondage Odoxa publié ce matin dit que 67% d'entre eux ne veulent pas voir les enfants de combattants djihadistes revenir en France. Et pour le moment, l'État n'a toujours pas proposé de solution concrète concernant le sort des Français, mais...
En même temps,
la grande difficulté concerne la procédure à suivre pour rapatrier ces enfants. Il faut d'abord que les mères donnent leur accord, acceptent de s'en séparer, puisque pour la France, il est pour le moment hors de question de rapatrier les mères. Ensuite, par où passer, puisque la France a coupé tout contact avec le régime syrien. La traversée du Kurdistan est plus que dangereuse, et puis pas sûr que la Turquie voisine accepte de donner un coup de main. Enfin, une fois arrivé en France, le protocole est établi, visite médicale, suivi psychologique, gestion du traumatisme de guerre, prise en charge par les services de protection de l'enfance. Mais rien ne prouve qu'une fois rentrés et pris en charge, donc ces enfants arriveront à se défaire de l'horreur qu'ils ont vécue sous l'emprise de l'État islamique.
Merci beaucoup Capucine. Cyril est donc le VIP de Radio Brunet aujourd'hui. Rebonjour Cyril.
Oui, bonjour. Bonjour tout le monde.
Tu connaissais déjà cette situation. Capucine vient de nous la rappeler en détail. Quel est ton avis sur ce qui se passe en ce moment, là, sur ce débat? Faut-il ramener les enfants de djihadistes français qui se trouvent en Syrie? Aujourd'hui, faut-il les ramener en France?
Alors, déjà pour commencer, comme je disais ce matin avec Thomas, c'est que je pense qu'on est parti sur un sujet très très complexe. En plus de ça, je pense qu'on est parti pour de très très longues années. C'est pas quelque chose qu'on va régler en 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Moi, contrairement à vous, Rémi, ou à toi, je sais pas si on se tutoie.
On se tutoie.
Alors, contrairement à toi, moi, je suis pour que les enfants rentrent avec leur mère. parce que je pense que déjà on sépare pas des enfants de leur mère, déjà qu'ils en ont connu assez de choses catastrophiques, je pense. Mmh. Donc c'est pas la peine d'en rajouter, j'allais dire. Maintenant, ce que je pense que ce qui pourrait peut-être un petit peu changer aussi l'opinion des Français, c'est si on était au courant d'exactement de comment ça allait se passer ce rapatriement. Mmh. Ce que je disais avec Thomas ce matin, c'est qu'il va falloir s'habituer à passer dans une autre, dans une nouvelle dimension, j'allais dire, de d'enfermement pour ces femmes. Et qui dit enfermement pour ces femmes, il dit un peu semi-enfermement pour les enfants. Enfin, moi, tout le questionnement, je me pose, c'est donc ces enfants vont rentrer, vont être pris psychologiquement, est-ce qu'ils iront à l'école la journée? Est-ce qu'ils dormiront en prison le soir avec leur mère?
Tu sais, Cyril,
toutes ces questions-là, je me pose. Parce qu'en fait, ça serait trop simple d'un claquement de doigts de dire bon, on les laisse là-bas, ou alors ils rentrent et puis ils vont à l'école ordinaire.
Justement, Cyril, on est là pour répondre à ces interrogations, parce que forcément, je dis pas que j'ai la vérité, j'ai une position, j'ai un avis, voilà, mais je détiens pas la vérité. Et on est là pour essayer d'avancer. Et justement, Maître Marie Dauzé est avec nous. Bonjour, Maître.
Bonjour.
Vous êtes avocate et vous défendez des familles de djihadistes français en Syrie. Si je me trompe pas, vous êtes l'un des trois avocats qui a déposé plainte mercredi devant les Nations Unies contre la France à propos du sort de ces quelques dizaines d'enfants français, de djihadistes français en tout cas, qui sont actuellement dans un camp de réfugiés en Syrie. Vous entendez ce que je dis, vous entendez ce que dit notre VIP de Radio Brunet, Cyril. C'est un sujet extrêmement complexe, c'est vrai. Mais des enfants français, on en a entendu deux tout à l'heure, il y en a déjà qui sont rentrés?
Il y en a 84, ça ce sont les chiffres officiels au 1er octobre 2018, il y en a 84. Alors, ils ne sont pas rentrés grâce à la France, hein. Ils sont rentrés grâce à des passeurs, grâce à des ONG, grâce à leurs mères qui se sont enfuies avec eux. Et puis arrivés en Turquie, ils ont effectivement été pris en charge, judiciarisés et ensuite pris en charge par l'ASE, judiciarisés pour les mamans et pris en charge pour les enfants par l'aide sociale à l'enfance, l'ASE. Donc,
une procédure qui
existe
déjà.
Vous savez, ce sondage, il ne vaut rien. Vous savez pourquoi il ne vaut rien, ce sondage?
67% des Français qui ne veulent pas que les enfants rentrent.
Et c'est normal, on pose des questions à des Français qui ne sont pas informés, qui ne savent pas de quoi on parle. On leur assène depuis des années que ce sont des bombes à retardement, point, mais on ne leur dit pas la vérité. La vérité, c'est que sur ces 84 enfants qui sont déjà rentrés, 77 ont été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, placés dans des familles d'accueil, ont vu des psychologues, des psychiatres, qu'ils rencontrent progressivement leur famille et que tout se passe très bien, que c'est extrêmement positif.
Et sur ces 84 enfants, alors là, on a les chiffres pour les 70 identifiés actuellement qui sont toujours en Syrie. On a des chiffres sur leur âge, à peu près. On a 75% de ces enfants qui ont moins de 7 ans. 70% ont moins de 5 ans. En revanche, les 84 qui sont rentrés, il y avait des différences d'âge, j'imagine.
Bien sûr. Et pour certains...
Et le traitement n'est pas le même, j'imagine,
bien
en
sûr.
Fonction de l'âge.
Bien sûr. Pour certains enfants qui sont plus proches de l'adolescence, il y a, pour certains d'entre eux, une judiciarisation. C'est-à-dire qu'on n'est pas là seulement dans une prise en charge sociale et psychologique, on est aussi dans le cadre d'une prise en charge pénale. Vérifier si ces enfants ne se sont pas rendus coupables d'infractions pénales.
Est-ce que certains de ces enfants ou adolescents ont été emmenés en prison?
Ils ont été judiciarisés. Moi, je ne les défends pas, je ne connais pas leur sort. D'accord. Mais je sais qu'ils ont été judiciarisés.
Moi, j'ai retrouvé un chiffre, sur les 84 enfants déjà revenus, 8 de plus de 13 ans auraient été incarcérés.
Voilà, c'est tout à fait possible. En tout cas, dans ce type de circonstances, ça ne m'étonne absolument pas.
Donc, on a bien la preuve là, dans ce que vous nous dites, moi, ce que j'ai trouvé ce matin, que la procédure de rapatriement, de retour, elle existe déjà. Une fois les enfants arrivés ici, ils sont pas livrés à eux-mêmes. En fonction de leur âge, en fonction de leur profil, ils sont pris en charge sérieusement, que ce soit par les services sociaux, que ce soit par la justice, donc il y a un vrai traitement.
Mais évidemment, évidemment.
Ah, évidemment, je pense que certains en doutent.
Oui, mais certains en doutent, mais peut-être parce qu'on ne les a pas informés. Mais oui, l'aide sociale à l'enfance, notamment de Seine-Saint-Denis, parce que c'est l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis qui s'en occupe prioritairement. L'aide sociale à l'enfance du Val-de-Marne va probablement l'épauler, mais prend en charge ses enfants. Et il y a donc des psychologues, des psychiatres, des éducateurs, et puis des familles d'accueil qui sont formées pour les accueillir. Et force est de constater que ces enfants ont été sauvés du terrain de guerre en rentrant, ont été sauvés psychologiquement et psychiatriquement de ce qu'ils ont vécu. Ce sont d'abord des victimes. Ce sont d'abord des gosses complètement traumatisés.
Cyril, tu entends ce que dit...
Le travail est aussi à faire sur les mères, qu'elles reviennent avec leurs enfants, mais qu'elles se repentissent et qu'elles font leur travail de dire, bon bah voilà, maintenant c'est comme ça qu'il faut voir la vie. C'est surtout, il y a aussi un travail sur les mères, parce que si les mères, on les met en prison, qu'on leur donne 10 ans et qu'on fait pas un travail aussi avec elles, psychologiquement, de qu'il faut qu'elles, que pour le coup, elles, je dirais presque entre guillemets, pardon, mais qu'elles prêchent la bonne parole à leurs enfants.
À mon avis,
et je disais ce matin, je suis pas pour les séparer. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie qu'on en fasse des haineux. Et qu'un gamin aujourd'hui qui a 4 ans, quand il en aura 10 de plus, 10 c'est demain, se retourne contre l'État, se retourne contre nous, parce que il y a 10 ans en arrière, on l'avait séparé de sa mère et qu'en fin de compte, on n'a rien fait pour améliorer, mais on a plutôt accentué le déclin.
Alors, c'est très intéressant.
Avec ça, bien sûr, il faut que la mère, qu'elle accompagne l'enfant dans des bonnes pensées. C'est sûr que si c'est pour lui dire qu'on est toujours des mécréants à chaque fois qu'elle le croise, ça ne servira malheureusement pas grand-chose. Mais c'est complexe, c'est très très complexe.
Ouais, c'est complexe. Mais justement, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que tu as raison, c'est extrêmement complexe comme sujet. Maître Marie-Dosé, vous l'avez compris, moi je suis beaucoup plus circonspect sur le sort des adultes. Je ne dis pas que je détiens la vérité, encore une fois, c'est trop complexe, c'est difficile d'avoir un avis tranché. Je suis circonspect, c'est-à-dire que j'ai entendu les témoignages de certaines jeunes femmes qui ont été arrêtées, qui sont aux mains des Kurdes, actuellement en Syrie, de jeunes femmes françaises. J'ai lu certains propos qui me font froid dans le dos. Vous les avez entendus. Des jeunes femmes qui disent ne pas avoir été combattantes, mais qui malgré tout disent que le plus beau jour de leur vie, j'en ai entendu une dire ça, le plus beau jour de leur vie, c'était en janvier 2015 lors de l'attentat de Charlie Hebdo. J'ai vu certaines jeunes femmes avec des enfants dire nous on voudrait rentrer en France pour une peine de prison pas trop longue ou une peine aménageable. Le problème c'est qu'en France, il y a beaucoup d'homosexuels, ça nous gêne. Je suis beaucoup plus circonspect sur l'endoctrinement et la puissance d'endoctrinement de ces femmes et de ces hommes, évidemment. Et c'est pour ça, je sais que c'est arbitraire, mais j'essaie de séparer les deux. Il y a le problème des adultes, qui doit être jugé au cas par cas, et qui est beaucoup plus complexe, selon moi. En revanche, pour ce qui est des enfants, on parle bien d'enfants à 75% qui ont moins de 7 ans. Pour moi, là, la question se pose pas. Il faut les ramener. Évidemment, c'est un déchirement. Évidemment que c'est un déchirement de séparer un enfant de sa maman. Mais on est dans une situation tellement extrême que moi, je suis d'avis, en tout cas, de les ramener. Et pour le reste...
Alors, première observation, vous n'allez pas trouver en face de vous une avocate qui va vous expliquer que ces femmes parties sont dans la repentance, qu'elles adorent la République depuis qu'elles sont prisonnières des Kurdes, et que vraiment il ne faut pas ni s'en méfier ni s'en défier. Pas question. Deuxième observation, il se trouve que j'ai demandé, il y a près d'un an et demi, le rapatriement de certains enfants sans leur mère. Parce que ces femmes, quelques femmes, l'avaient décidé, l'avaient accepté. Elles ne voulaient pas être responsables d'une enfance aussi terrible que celle-là donnée à leur enfant dans les camps de Rojava.
Donc c'est de leur propre volonté qu'elles ont...
Elles m'ont demandé de demander expressément aux autorités françaises...
Moi je reste, mais voilà, ramenez mon enfant.
Je ne veux pas être responsable de ça. On ne m'a jamais répondu. On ne m'a jamais répondu. Maintenant, je vais vous dire...
On parle d'enfant de quel âge ?
On parle d'enfant entre 2 et 5 ans. Je ne le demanderai pas. Je ne le demanderai plus. C'est trop tard. Vous savez pourquoi c'est trop tard ? Parce que ces enfants ont finalement vécu toute leur vie, ou la moitié de leur vie, ou le tiers de leur vie, dans un camp où il n'existe que le néant, des cailloux, la faim, le froid, la soif. Le seul rayon de soleil dans leur vie, c'est leur mère. On ne peut pas rajouter ce traumatisme, cette déchirure, à ce qu'ils ont déjà vécu. C'est plus possible. Peut-être que ça a été possible, ça ne l'est plus. Et là-dessus, c'est aussi la responsabilité de l'État français. Mais sachez juste une chose. Toutes ces femmes sont sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Si elles sont rapatriées avec leurs enfants,
Elles iront en prison.
Elles vont direct, elles sont directement
jugées, en tout cas.
Mises en examen. Mises en examen. Pour essayer de savoir exactement ce qu'elles ont fait, une information judiciaire est ouverte. Elles seront placées en détention provisoire à la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis. Leur enfant, il y aura probablement, très certainement, assurément, des visites organisées en maison d'arrêt pour qu'ils puissent voir leur mère aux côtés d'éducateurs. Et puis elles seront jugées et les peines iront de 10 à 30 ans d'emprisonnement. On en est là. Dans le cadre de la prison. N'oublions pas tout de même qu'il existe des quartiers de prise en charge de la radicalisation, qu'il existe des psychologues, des psychiatres, des quartiers d'évaluation de la radicalisation et que même l'administration pénitentiaire, lorsqu'au début de mois, on a évoqué le rapatriement de 70 enfants, mais aussi de 50 à 60 adultes, même l'administration pénitentiaire, qui a raison de pleurer sur son sort, a dit « mais il n'y a pas de difficulté ». 70 600 détenus en France, 500 mises en examen et prévenus pour des faits de terrorisme. Vous savez, 50, il n'y a pas de difficulté pour les prendre en charge dans des quartiers, soit de prise en charge de la radicalisation.
On parle de 50 à 60 femmes.
Les chiffres n'ont jamais été officiellement précisés. On savait qu'il y avait 70 enfants et on savait qu'en tout, il y avait 130 rapatriements. Donc, on a fait une soustraction. Il y avait 60 adultes, probablement des femmes et des hommes. Mais ouais, c'est tout ce que l'on savait.
Ouais, j'avais trouvé ça ce matin, je sais pas s'ils sont exacts, hein, mais ce sont des chiffres que j'ai trouvés, la moitié serait des femmes.
Mais n'oublions pas quand même que toute cette vague de rapatriement avait été prévue, avait été fixée. On nous a évoqué les avions américains qui iraient les chercher puis qui les ramèneraient en France. Et puis finalement, marche arrière. Mais marche arrière, pourquoi? Peut-être à cause de ces petits sondages là, qui montrent que puisqu'on personne n'est informé ou en tout cas ne connaît pas bien le sujet, eh bien la population française n'est pas prête. Et peut-être qu'il serait temps que les hommes politiques se lèvent pour enfin être mûrs et responsables dans leur discours plutôt que de surfer sur des petites expressions qui ne mènent finalement à rien.
Celle que vous entendez, c'est Maître Marie Dosé, avocate qui défend des familles de djihadistes français en Syrie. Elle reste évidemment avec nous. Cyril reste évidemment avec nous, il est VIP de Radio Brunet. Claude nous appelle au 3216, Claude de Paris. Bonjour Claude.
Bonjour.
Juste en un mot, on va faire une petite pause, je te reprends immédiatement après. Claude, ton avis, on fait revenir ou pas les enfants de djihadistes français?
Très bien.
Et ton avis?
Ah, je suis absolument contre ce retour.
Bon, tu vas expliquer pourquoi.
Assumer leurs actes.
Tu vas nous expliquer pourquoi dans un instant. Grâce, bonjour, je t'ai même pas dit bonjour,
Désolé. Bonjour Rémi, bonjour à tous.
On fait un point sur le bon démétrie, s'il te plaît.
On parle des enfants de djihadistes français et pour Rémi, on doit être plus fort que le terrorisme et on doit les ramener chez nous. Alors je vous invite à voter sur le Twitter d'Eric ainsi que sur rmc.fr. Pour cette première tendance, vous êtes 26% seulement à être d'accord avec Rémi.
À tout de suite.
RMC, midi 14h, c'est Radio Brunet. Radio Brunet, Rémi Barré.
On parle dans Radio Brunet de cette question extrêmement, j'ai envie de dire dérangeante, extrêmement préoccupante également, extrêmement douloureuse, des enfants de djihadistes français qui sont actuellement dans des camps de réfugiés kurdes à la frontière entre la Syrie et la Turquie. Il y en a 70 qui sont identifiés, les trois quarts d'entre eux ont moins de 7 ans et rien ne bouge actuellement. Ils sont dans la froid, sous la pluie, dans la boue, certains sont malades, certains sont blessés. Et les avocats des familles de djihadistes français en Syrie, trois d'entre eux en tout cas, dont Maître Marie Dosé qui est avec nous, demandent à la France de les ramener, de les rapatrier. Ils ont déposé plainte avant-hier devant l'ONU pour l'inaction de la France. Et avec nous, nous avons Claude qui nous appelle de Paris, au 3216. Bon, rebonjour, Claude.
Rebonjour, Rémi.
Tu me disais tout à l'heure que tu étais contre le retour de ces enfants.
Absolument. Alors, j'étais sidéré lorsque j'ai entendu le thème de l'émission. Et j'ai également réagi de façon épidermique lorsque j'ai entendu les propos de Jean-Jacques Bourdin ce matin, qui tenait la même ligne que toi.
Qui recevait une grand-mère qui a ses petits-enfants, voilà, trois de ses petits-enfants sur place.
J'ai entendu l'intervention de cette dame. Et donc, je vais te répondre par une question. Si ton propre gamin avait été victime d'un attentat, comment réagirais-tu?
J'espère que je serai plus fort que le terrorisme. J'espère que je te réponds. J'espère que je serai plus fort que le terrorisme. Le terrorisme, c'est la violence aveugle. J'ai de la colère, comme toi, comme tous les Français. Moi, j'ai pleuré en janvier 2015. J'ai pleuré le 13 novembre. J'ai pleuré le 14 juillet. J'ai encore énormément de colère en moi. De la violence, certainement, parce que je vais te dire les choses telles quelles. Tu sais que Fabien Klein, l'une des figures du djihadisme français, a été tué il y a quelques jours en Syrie. Ben moi, j'avais dit bon débarras. Voilà, je te le dis. Donc j'ai une violence en moi. J'ai une violence en moi. Laisse-moi parler. Mais le terrorisme, c'est la violence aveugle. Et j'espère ne pas avoir de violence aveugle. Et j'espère que je serai plus fort que ça. Là, on parle d'enfants qui ont 1, 2, 3, 4, 5 ans. Et moi, mon esprit me dit, je ne peux pas laisser ces enfants là-bas. Ils ne m'ont rien fait, c'est pas eux qui étaient au Bataclan.
D'accord. Alors moi, je répondrai à la grand-mère de ces enfants. Je lui dirais que je serais prêt à consacrer une partie de mes impôts à lui payer un billet d'avion et à l'envoyer là-bas en Syrie pour s'occuper de ses propres enfants. Voilà, c'est la seule humanité que j'éprouve envers
mais
ces djihadistes.
Mais qu'est-ce qui te fait peur?
Et j'estime... Pardon, je te reçois brouillé.
Tu m'entends mieux?
Est-ce voilà, ça va mieux. Là.
D'accord. Claude, qu'est-ce qui te fait peur? On parle d'enfants de 1, 2, 3 et 4 ans, 5 ans, 6 ans. Qu'est-ce qui te fait peur?
Ça ne me fait pas peur. Au contraire, je suis très serein avec ça. J'estime que c'est aux parents des djihadistes d'assumer leurs actes et leurs paroles. Donc c'est eux qui sont mis dans cette situation, c'est à eux d'assumer.
Bah la grand-mère dont on parle, elle est prête à les accueillir, ces petits enfants, et assumer.
Non, mais moi j'ai pas envie de consacrer mes impôts au bien-être de cette famille et de ses enfants. Mmh. On lui paye un avion. Et elle va en Syrie s'occuper de ses enfants et elle se débrouille avec.
Bah, c'est un avis très tranché. Vous
je
l'entendez.
Je suis complètement hermétique à toute indulgence.
J'ai entendu Claude. Et c'est ton avis. D'ailleurs, ton avis n'est pas isolé. Hein. On l'a vu ce sondage hier. 67% des Français disent qu'ils ne veulent pas du retour de ses enfants. Et puis il n'y a pas que les Français lambda. Donc je fais partie. Hein. Il y a aussi des responsables politiques qui ont des avis très tranchés. Écoutez ce que disait il y a quelques jours Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France. C'était avec Jean-Jacques Bourdin.
Il est hors de question que des individus qui ont trahi la nation, mais qui ne sont plus français aujourd'hui, dans le cœur et dans l'esprit, puissent revenir.
Et les enfants,
quand on trahit, ils restent là-bas.
Ils restent là-bas,
oui,
même
ils ne sont plus français.
6 ans.
Ils ne sont plus français.
Les enfants qui ont 4-5 ans, vous les laissez
là-bas. Ils restent là-bas, oui.
Nicolas Dupont-Aignan, c'est un drôle de monde. C'est un drôle de monde que vous nous proposez.
Des enfants,
un drôle de monde,
qui sont vous inversez,
vous les laissez mourir là-bas.
Et les orphelins des attentats du Bataclan, vous en faites quoi?
Et voilà, on en revient au même propos que ce tenu par Claude à l'instant. Bon, moi, j'ai répondu ce que je pensais. Moi, Maître Marie Dezé, très très rapidement, j'ai du mal à comprendre comment on peut, d'une manière raisonnée, être contre le retour d'enfants qui ont 1, 2, 3, 4, 5 ans. On parle vraiment de 75% d'entre eux ont moins de 7 ans. Je comprends pas.
Moi non plus, je comprends pas. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de nous dire là? Que la mort d'un enfant exige la mort d'un autre?
Oui.
C'est-à-dire que ces enfants qui n'ont pas demandé à naître là-bas, qui n'ont pas demandé à être emmenés là-bas, doivent payer le prix du sang?
C'est de la vengeance, c'est
mais,
pas de...
Mais qu'est-ce que c'est? Mais enfin, on ne peut pas dire, nous nous battons contre le terrorisme, et puis finalement, exiger l'obscurantisme, exiger l'arbitraire, et utiliser les mêmes armes que le terrorisme.
C'est d'ailleurs,
ça, la difficulté.
C'est d'ailleurs le contenu du brunimétrie, ce que je l'ai pas devant moi. Si, c'est enfant djihadiste français, soyons plus forts que le terrorisme.
Exactement.
Ne nous comportons pas comme des auteurs de violences aveugles.
Cet homme qui dit, cette grand-mère a qu'à prendre un billet d'avion et aller en Syrie s'en occuper. Mais enfin, elle est responsable de quoi, cette grand-mère? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné la vie à un garçon ou à une fille qui est partie, qui a fait n'importe quoi, et qui a donné la vie à sa petite fille et à son petit-fils.
Certains vous diront qu'il y a eu un défaut d'éducation, qu'elle a une part de responsabilité.
Bien sûr. Mais je vais vous dire, cet homme, il n'était pas à l'abri de soi. Personne n'est à l'abri de ça. Personne. Et c'est quand même terrifiant qu'en France aujourd'hui, dans un pays aussi beau que le nôtre, dans le pays des droits de l'homme, on en soit arrivé aussi bas.
Merci Marie Dezé, vous restez avec nous. Je voudrais tout de suite prendre au téléphone Guillaume Monod. Bonjour Monsieur Monod.
Bonjour.
Psychiatre intervenant dans la maison d'arrêt de Villepinte en Seine-Saint-Denis. Vous avez publié récemment chez Gallimard « En prison, parole de djihadiste ». Vous entendez notre débat, il y a cette colère chez un certain nombre de Français sur ce sujet à l'égard des djihadistes et ça va jusqu'à leurs enfants. Il y a de l'irrationnel là-dedans, il y a aussi du rationnel. Je peux entendre que certains aient peur que ces enfants ne deviennent des bombes à retardement, que ces enfants, par la suite, même s'ils ont aujourd'hui 4 ans, une fois arrivés à l'adolescence, ne sombrent dans la violence et dans la violence terroriste. Qu'est-ce que vous répondez à ces craintes, Guillaume Monod ? Il y a moyen... Déjà, dans quel état sont ces enfants lorsqu'ils ont aujourd'hui 4-5 ans et qu'ils ont vécu ces périodes atroces ? Ils sont dans quel état psychologique ?
Ce sont des enfants qui surtout sont dans des états de souffrance parce qu'ils ont été confrontés à des choses extrêmement violentes qu'effectivement à 4 ou 5 ans on peut très très mal comprendre. Ce sont des enfants qui effectivement n'ont pas demandé à partir là-bas. Donc au-delà de la question de responsabilité, ce sont comme des enfants qui sont victimes
tout ça, on est
des
d'accord.
adultes. Mmh. Ils sont d'abord victimes du monde des adultes.
Je vais vous poser la question adultes. Plus franchement. Sont-ils oui. radicalisés ?
Pardon ?
Je vous pose la question plus franchement. Oui. Sont-ils radicalisés ?
Mais à 4 ans, non. On n'est pas radicalisé à 4 ans. À 4 ans, on est un enfant. On ne peut pas avoir d'opinion politique ou religieuse à 4 ans. Ça, c'est absolument absurde. Non, ces enfants sont surtout victimes du monde des adultes. Ils doivent être pris en charge, comme on prend des enfants qui ont été victimes d'atrocités dans une guerre civile, dans un tremblement de terre, dans quoi que ce soit. Ils doivent être pris et aidés et accompagnés. Mais l'idée que ce soit parce qu'ils sont nés sur place, ce sont des bombes à retardement, c'est une idée qui est complètement fausse. J'aurais 4 ou 5 ans, le fonctionnement psychique de l'enfant n'est pas établi. On peut les prendre en charge et les aider pour juste qui sortent de l'horreur et des violences qu'ils ont subies, qu'ils ont vécues. Mais c'est pas à 5 ans qu'on peut être radicalisé sur le plan religieux, politique ou théologique ou autre. C'est parfaitement absurde.
Et à l'égard de la violence, si on a vécu dans un monde violent, si on a vu des événements violents, on a vu ces images, alors il y en a eu quelques-uns, c'était pas des centaines, mais on a vu des images extrêmement violentes d'enfants de 7, 8, 10 ans. Je parle des garçons, c'était des garçons et qui étaient obligés en tout cas par les adultes, des djihadistes, à commettre des actes terribles, et notamment des exécutions. On a vu des enfants très jeunes avec des kalachnikovs à la main. C'était de la propagande, certainement de l'État islamique. On a vu ces vidéos. Mais on peut se poser des questions quand même. Est-ce que, alors je sais bien, ils n'ont pas une conscience politique à 7 ans, 8 ans, 9 ans. On n'a pas de conscience politique. Mais est-ce qu'on n'a pas été habitué à la violence, c'est-à-dire on l'a subi, mais aussi on la donne.
On peut être habitué à la violence en ce sens où effectivement on la ressent moins, mais ce n'est pas pour autant que ça veut dire que soi-même on va devenir violent. Être habitué à quelque chose, à une situation violente, c'est ce que vivent tous les civils. Le siège de Sarajevo, les attentats en Irlande pendant les problèmes d'Irlande du Nord et du Sud, énormément de gens ont vécu au quotidien la violence. Ils ont appris à faire avec, ce qui ne veut pas dire qu'ensuite eux-mêmes sont devenus violents. L'immense majorité des gens qui sont victimes de violences dans des zones de guerre, qui sont victimes de guerres civiles, qui sont victimes de choses comme ça, la subissent, arrivent plus ou moins à faire avec, mais ne deviennent pas violents pour autant. Il faut arrêter de sortir de l'idée que parce qu'on a vu quelque chose de violent, souvent on va devenir violent. C'est complètement faux. La plupart des gens qui vivent une guerre civile reviennent traumatisés, déprimés, angoissés et ont horreur de la violence. La plupart des gens normalement constitués qui ont vécu des scènes d'horreur, ça va surtout les rendre dégoûtés à tout jamais de l'horreur et de vouloir la donner et de vouloir le reproduire.
Une autre question très concrète, on en parlait avec Maître Marie Dosé, les moyens qui existent en France, on a les moyens pour accueillir ces 70, peut-être plus, enfants. On a les moyens, je parle de, voilà, les services sociaux, les psychiatres, les médecins, même d'un point de vue judiciaire, juge pour enfants, est-ce qu'on a les moyens en France pour les accueillir ?
Oui, absolument. Tout a été pensé, tout a été réfléchi, tout est construit, mis en place. D'ailleurs, il y a déjà entre 50 et 100 enfants djihadistes qui sont déjà revenus en France. Il y a déjà entre 50 et 100 enfants qui sont déjà revenus de Syrie, qui ont déjà vécu ce que les enfants qui sont encore là-bas vivent.
84,
des enfants qui sont pris en place par la justice, par les services sociaux, par la pédopsychiatrie, par des psychologues, par des éducateurs. Et à ce jour, certains sont revenus depuis un an, deux ans, trois ans. À ce jour, aucun ne manifeste de volonté de passage à l'acte, de refaire le djihad en France ou d'être une bombe.
Le cadre
existe déjà et il fonctionne.
Et on a un recul là, pour certains, de 3-4 ans, de 3 ans. On a déjà quelques années de recul.
Un an, deux ans.
Voilà.
Le recul qu'on a, c'est que ce sont des enfants qu'on peut prendre en charge, ce sont des enfants qui peuvent se détacher de tout ce qu'ils ont vu, ce sont des enfants qui ont souffert, mais qui sont capables aussi de se réadapter à leur vie normale, ce sont des enfants qui sont capables de se saisir de l'aide qu'on leur donne. Quand les parents sont là, même si les parents sont incarcérés, il y a aussi un travail qui est fait avec les parents. Donc on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent et qui peuvent aider l'immense majorité de ces enfants.
Ensuite, la nature n'est
pas parfaite. Il y a toujours des gens qui n'iront pas bien. Mais le cadre existe, les moyens existent et ça fonctionne déjà.
Cyril, tu entends ce qu'on se dit ?
Ouais.
Qu'est-ce qu'on attend, j'ai envie de te dire ?
Bah, qu'est-ce qu'on attend? Je sais pas. Je crois que ça se fait pas comme ça sur un coin de table.
Il y a urgence quand même.
En préambule, il faut. Je crois qu'on est parti pour très 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 longtemps. Moi, je voulais surtout revenir sur le Alors, bon, j'ai bien compris que l'avocate a été, j'allais dire, consultée par des grands-parents d'enfants là-bas.
Elle défend des familles de djihadistes, ouais.
Voilà, j'ai cru. Alors, je voudrais qu'elle fasse un point là-dessus, si elle le peut. J'ai cru entendre le président irakien, quand il est venu à l'Élysée, de dire qu'en fait, alors ces femmes qui sont comment dirais-je, pas condamnées, mais qui sont
détenues,
présumées avoir commis des actes envers l'Irak, devaient être jugées en Irak. Enfin, les djihadistes, pas seulement que ces femmes qui ont. Alors, je voudrais qu'il a dit bon bah voilà, ils ont fait du mal sur la terre irakienne, donc ils doivent être jugés en Irak. Et je voudrais avoir son point de vue là-dessus par rapport à ça, parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit bon bah comme ça nous permet à nous la France, en fin de compte, de s'éviter le problème.
Certains ont même dit qu'on était, on se servait de l'Irak.
Alors,
on va lui demander, Cyril. Certains ont même dit mettre Marie Dosé. Certains ont même dit qu'on la France faisait de l'Irak son Guantanamo. Il est vrai que lundi dernier, le président irakien a été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. La semaine d'avant, des sources officielles nous disaient bon bah voilà, il y a 130 Français actuellement, hommes, femmes, enfants, détenus, retenus par les Kurdes dans des camps, on va les ramener et on va gérer le problème. C'était suite à la déclaration, je remonte un peu plus loin, de Trump qui disait il faut que vous repreniez vos ressortissants. Bon bah on devait les ramener. Lundi dernier, le président irakien vient à l'Élysée et là on apprend que 13 djihadistes français sont finalement emmenés en Irak depuis ces camps kurdes pour être jugés en Irak. Alors, on fait quoi?
Voilà. D'abord, en introduction, je pense qu'il serait temps quand même que ce gouvernement ait une ligne officielle, claire et précise. Parce que depuis 18 mois, on multiplie les contradictions, les formules à l'emporte-pièce. On nous a dit tout et n'importe quoi. On nous a dit qu'elle serait jugée par les Kurdes, alors que c'est impossible, puisque le Kurdistan syrien, ça n'existe pas. Puis finalement sur place, puis qu'elle serait rapatriée, puis que les hommes seraient jugés là-bas, mais que les femmes rentreraient. On dit tout et n'importe quoi. Il y a quelques jours, Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, à la question qui lui est posée, mais sur ces 13 djihadistes, y a-t-il des hommes et des enfants, des femmes et des enfants? Elle répond, je ne sais pas. Ben, ça devient, là, tout de même, extrêmement inquiétant. Donc je pense que le sujet est assez important pour qu'à un moment donné, on ait une ligne claire et précise sur ces 13 djihadistes qui ont été livrés à la justice antiterroriste irakienne. Première remarque, je comprends pas cette priorité. Voilà. La priorité pour moi, tout de même, puisque Monsieur Emmanuel Macron a envie d'exister dans ce débat, ou en tout cas il semble qu'il a envie d'exister dans ce débat, c'est de prendre position sur les enfants, et sur les femmes, et sur leurs mères plutôt. Il serait temps quand même qu'on l'entende sur ce sujet. Maintenant, s'il préfère livrer 13 djihadistes à une justice arbitraire, et corrompu, parce que là aussi on le sait.
Là, je serais pas tout à fait d'accord
je
avec vous.
Je sais bien, non, mais je vous le dis.
Oui, non, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'il peut dire il faut s'occuper des enfants, voilà, et prendre position sur le sujet, tout en même temps, c'est une formule favorite, mais en même temps, c'est très djihadiste. J'en sais rien, je ne sais pas. Mais je peux imaginer que ce sont parmi les plus dangereux.
Le vrai problème, il est dans la transparence. Moi, je veux bien débattre, je veux bien apporter contradiction au président de la République quand il nous expliquera ce qu'il est en train de faire.
On est dans le
personne n'y comprend rien. Non,
maître, donc, excusez-moi, si demain vous avez un Thaïlandais ou un Suisse ou on va prendre un Thaïlandais qui vient commettre un acte terrorisme en France. Si cet homme est arrêté, il sera jugé en France par la justice française ou est-ce qu'il sera jugé en Thaïlande?
Ben, il y a un État en France, donc il sera jugé en France.
Monsieur, d'abord le Kurdistan syrien, ça n'existe pas, donc ils ne peuvent pas être jugés au Kurdistan syrien.
Kurdistan, je parlais de l'Irak là.
D'accord.
Entre parenthèses.
Alors il y a deux compétences qui existent pour la France s'agissant des djihadistes. C'est très clair, ça s'appelle les textes. C'est-à-dire la première compétence, c'est une compétence internationale. Et la seconde, c'est que le début de l'infraction, l'association de malfaiteurs, elle a commencé en France. C'est-à-dire qu'au moment où ils partent faire le djihad, eh bien, l'infraction commence sur le territoire français. Donc, il y a une compétence française. Et il y a des juges d'instruction qui sont saisis pour chacun d'entre eux. Il y a un mandat d'arrêt international pour chacun d'entre eux. Et il y a déjà une judiciarisation pour chacun d'entre eux. Elle existe. Après, il y a un conflit de compétences. Mais on ne peut pas dire que la France n'est pas compétente. Elle l'est.
Simba, d'accord, nous appelle. Cyril, s'il te plaît, un instant, Cyril. Excuse-moi, tu es le VIP de Radio Brunet. Normalement, je devrais te céder la parole, mais je veux juste la donner un instant à Simba qui nous appelle depuis le Raincy en Seine-Saint-Denis. Bonjour, Simba.
Bonjour, bonjour Rémi. Bonjour.
Quelle est ta position sur le sort de ces enfants actuellement en Syrie?
Bah, écoute, Rémi, moi, la première question que je me pose, c'est dans quel monde vivons-nous en fait? Certes, le sondage est à prendre avec des réserves, mais je suis malgré tout horrifié par l'inhumanité dont fait preuve une partie des Français. C'est incroyable.
7 sur 10 ne veulent pas pire que des enfants entre.
C'est complètement fou. Et Rémi, tu as totalement raison. Nous devons être beaucoup plus forts que la terreur. Et si d'aventure des soucis devaient arriver avec ces enfants, eh bien on les gérera, point final. Il n'y a pas autre chose à dire, il n'y a pas autre chose à faire. Il n'y a même pas de question à se poser, métaphysique ou quoi que ce soit. On est en capacité de pouvoir les accueillir. On parle, si ma mémoire est bonne, de 150 gamins.
70 identifiés en tout cas, ouais.
Voilà, 70 identifiés, donc je pense qu'on a totalement la possibilité d'accueillir ces 70 gamins, leur apporter assistance parce qu'ils sont finalement menacés de mort, et derrière de trouver des solutions pour réintégrer, alors on parle pas de réinsertion, mais en tout cas leur permettre finalement de mieux vivre la fin de leur enfance et de leur redonner finalement un équilibre, et l'équilibre qu'ils n'ont peut-être pas. Et je me permettrai même, si je veux être un petit peu provocateur, d'y associer également leur mère, car on n'enlève pas un enfant à sa maman, enfin c'est très très compliqué à mon sens, et donc pareil, dans la même logique, on gère le problème dès que le problème se pose. Mais de là à dire ils sont de toute façon une branche arrachée d'un arbre, et donc du coup on va traiter comme on traiterait l'arbre, excuse-moi pour la métaphore, la comparaison, mais
il y en a beaucoup plus violente sur les réseaux sociaux, hein.
Mais c'est incroyable. Qu'on se pose la question, pour moi, c'est juste impressionnant.
Merci
beaucoup. D'habilité, d'inhumanité et de cruauté.
On est totalement d'accord.
Il faut qu'on soit plus fort que tout ça.
Merci beaucoup, Simba, de nous avoir appelé au 32-16. Très rapidement, Maître Marie Dosé, j'ai une dernière question à vous poser. Vous avez déposé plainte auprès des Nations Unies contre la France pour inaction. Vous avez espoir que... Voilà, c'est pas le mot, mais c'est de la communication, c'est pour faire parler de ce qui se passe, ou alors vous avez vraiment espoir qu'il y ait un aboutissement judiciaire?
La France est signataire d'une convention internationale des droits de l'enfant. Donc qui oblige chacun des États signataires à prendre soin de ses enfants et à ne pas les exposer aux violences, aux exactions. À partir de là, elle ne remplit pas ses obligations, et moi je pense qu'on peut parvenir à sanctionner l'État français.
Merci beaucoup, Maître Marie Dosé, d'avoir été avec nous, avocate qui défend des familles de djihadistes français en Syrie. Merci à Guillaume Monod, également psychiatre intervenant dans la maison d'arrêt de Villepinte, d'avoir été avec nous.